RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, n'importe où que vous soyez. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bienvenue dans le programme du journal. On commence par le titre. Le ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a dit qu'il n'y a pas de négociations secrètes avec Israël sur les visas. Universitaire, le gouvernement insiste les Nations Unies liées à l'interdiction des citoyens indonésiens à Jérusalem. Le concept de tourisme halal européen a été introduit à Jakarta. L'Indonésie renforce sa coopération avec les musulmans cambodgiens. La dernière, l'ambassade de la République d'Indonésie à Beijing et Ritz-Carlton ont organisé un festival culinaire de Nusantara. Voici le journal complet. En ce qui concerne les questions sans visa entre l'Indonésie et Israël, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré qu'il n'y avait pas de négociations secrètes concernant les voyages sans visa et les affaires entre les deux pays. Elle a dit aux journalistes vendredi que l'Indonésie continuerait avec les Palestiniens dans leur lutte pour l'indépendance et leurs droits, dont la politique étrangère de l'Indonésie est très claire. La troisième, les relations diplomatiques entre l'Indonésie et l'Israël, ce n'est pas vrai. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yasona Lawli, a également réaffirmé que l'Indonésie n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. Puis, la deuxième nouvelle, le professeur de droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, a estimé que le gouvernement devrait encourager le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, lié à l'interdiction des citoyens indonésiens qui sont entrés à Jérusalem. Le gouvernement a tenu des discussions avec le secrétaire général des Nations Unies et a demandé que le secrétaire général des Nations Unies rappelle à Israël qu'il existe une résolution de l'Assemblée générale qui établit Jérusalem comme la ville sainte de trois religions et un statut international sous le contrôle des Nations Unies. Cela a été déclaré par Hikmahanto Juwana à Jakarta récemment. Ensuite, le secrétaire général des Nations Unies, qui fait une approche avec le gouvernement israélien afin de ne pas discriminer ceux qui veulent pratiquer le culte sur la base de la citoyenneté. Ensuite, le gouvernement n'interdit pas s'il y a des personnalités communautaires et religieuses d'Indonésie de communiquer et faire une approche avec les dirigeants en Israël. Auparavant, le gouvernement israélien, à partir du 9 juin, interdira aux citoyens indonésiens d'entrer dans le territoire sous contrôle israélien, y compris la ville sainte pour les trois religions de Jérusalem. La raison du gouvernement israélien est qu'il y a l'interdiction pour ses citoyens d'entrer en Indonésie. Ensuite, la troisième nouvelle, le concept du tourisme halal dans le pays européen sont introduits lors de séminaires à Jakarta qui seront explorés par les opérateurs touristiques indonésiens. L'initiateur du séminaire de tourisme halal, Sherry, en tant que propriétaire de Sherry Travel à Jakarta, samedi, a invité divers représentants de pays européens à présenter leur potentiel touristique. Selon lui, le tourisme halal est plus populaire car beaucoup de touristes indonésiens qui choisissent l'Europe comme une destination de vacances, il faut donc leur donner du confort, en particulier toutes les choses liées à l'histoire islamique et à sa nourriture. Tandis que le membre de l'association de voyage halal d'Indonésie, Agus, a expliqué que le potentiel de l'industrie du tourisme national est prédit de vaincre les revenus du pétrole brut, de l'huile de palme, car les revenus de l'État du secteur du tourisme augmentent chaque année. Il espère que tous les acteurs de l'industrie touristique locale pourront collaborer pour faire de l'industrie touristique indonésienne le plus grand secteur contribuant aux revenus du pays. Puis, la quatrième nouvelle, un certain nombre de figures musulmanes, de hauts fonctionnaires et de militaires, ainsi que des hommes d'affaires cambodgiens, ont assisté à l'événement d'amitié et de briser les jeunes ensemble organisé par l'ambassade de la République d'Indonésie de Phnom Penh visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Après avoir reçu les dirigeants islamiques cambodgiens à la maison de l'ambassadeur à Phnom Penh, l'ambassadeur de la République d'Indonésie auprès du Royaume du Cambodge, Sudirman Hassan, a exprimé son espoir que les peuples indonésiens et cambodgiens puissent améliorer leur coopération et mener des activités conjointes. Lors de la communiqué de presse de l'ambassade de la République d'Indonésie pour Phnom Penh, qui a été reçue par Antara à Jakarta samedi, il a dit que la relation entre l'Indonésie et le Cambodge est très étroite, même pendant la dynastie Shailendra de l'ancien royaume de Mataram et le début du royaume Khmer ou d'encore, puis pendant la propagation de l'islam. Les ulémas, en particulier Wali Songo, qui sont encore des descendants de la tribu Cham, qui habitent à la région du centre et du sud du Vietnam et du Cambodge. Pour cela, il espère que grâce à cette relation historique étant très étroite, les peuples indonésiens et cambodgiens pourront continuer à coopérer pour améliorer les contacts interpersonnels, en particulier pour les musulmans des deux pays, en menant une série d'activités ensemble. Enfin, la dernière nouvelle, l'ambassade de la République d'Indonésie à Beijing, en collaboration avec l'hôtel Ritz-Carlton, ont organisé le Festival culinaire de Nusantara dans la capitale chinoise du 1er au 10 juin 2018. Il a été dit par le directeur adjoint de la nourriture et des boissons du Ritz-Carlton de Beijing, Julio Soler, samedi. Le festival sur le thème de Bali à Beijing accomplit tous vos sens, vise à attirer les citoyens chinois à visiter certaines destinations touristiques en Indonésie, en particulier l'île de Dewata. Pendant les 10 jours du festival, The Ritz-Carlton de Beijing a ciblé 600 convives à déjeuner et 800 convives à dîner. Pour réaliser la cible, il a emmené deux cuisiniers professionnels de Bali, tandis que l'ambassadeur d'Indonésie en Chine, Jauhara Orat Mangun, espérait que le festival pourrait augmenter le nombre de touristes chinois en Indonésie. Au cours des deux dernières années, la Chine a été classée première touriste étrangère qui ont visité l'Indonésie. Cette année, le ministère du Tourisme de la République d'Indonésie vise 2,5 millions de visites touristiques de diverses régions de Chine. Voici le journal.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir tous les auditeurs. On se retrouve encore dans la mise au point de la semaine, dont le titre d'aujourd'hui est « Le président a demandé au ministère et aux institutions de compléter la préparation de l'aide. » Les ministères et les agences sont demandés de terminer tous les préparatifs pour accueillir l'aide Al-Fitr cette année. La préparation n'est pas seulement des installations et des infrastructures routières, mais aussi la disponibilité des modes de transport, du mazout, des ingrédients de base et la stabilité des prix, ainsi qu'à la sécurité avant et pendant de l'aide. Cela a été confirmé par le président Joko Widodo lors d'une réunion limitée qui a discuté de la préparation de l'aide au bureau présidentiel de Jakarta mercredi le 30 mai. En outre, le président a demandé à la police indonésienne et les forces armées d'Indonésie de prévenir les troubles de sécurité pendant le Ramadan et avant de l'aide Al-Fitr afin que les gens puissent pratiquer tranquillement le culte. Après la réunion, le chef de la police, Tito Karnavian, a déclaré qu'avant les vacances et l'aide Al-Fitr, la police se méfie des actes criminels de terrorisme ou des conventionnels tels que le pickpocket, l'hypnotique et l'anesthésie. Des postes de sécurité sont disponibles dans les ports, les aéroports, les terminaux et les gares. Tito Karnavian a déclaré que tous les voyous ont été traités. À une autre occasion, le ministère des Transports, Budi Karya Sumadi, a fait appel aux résidents à mudik ou rentrer à la maison 7 jours avant de l'aide ou le vendredi 8 juin. Du samedi au dimanche, le 9 à 10 juin, le flux de retour est très élevé. Le lundi et le mardi, 11 à 12 juin, le flux a commencé à diminuer. Selon lui, le mode de transport terrestre et aérien est toujours un favori de la communauté. Le pourcentage de l'utilisation de ces deux transports augmente de 8,47% par rapport à l'année dernière. Tandis que le ministre des Travaux publics et du Logement populaire, Basuki Hadimulyono, a déclaré que les routes à péage et non les routes à péage à Java et à Sumatra sont prêtes à être utilisées par le public. Selon lui, à Java, il y a 3 routes nationales. Ce sont Pantai Utara Jawa ou Pantura, la ruelle de circulation centrale et Pantai Selatan Jawa ou Pansela. 90% des routes sont mieux que l'année 2017. Outre la route nationale, il existe encore une route à péage de 760 km entre Jakarta et Surabaya. À Sumatra de l'Est, presque toute la route est prête à passer. En outre, il existe la route à péage supplémentaire de 245 km. C'est tout la mise au point de la semaine.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'histoire d'aujourd'hui pour l'édition 3 juin 2018. Le 3 juin 1947, les forces armées indonésiennes a été inaugurées par le président Sukarno. Au début de son établissement, l'État indonésien n'avait aucune unité de soldats. L'agent de sécurité du peuple, ou Badan Keamanan Rakyat, formé le 22 août 1945 et annoncé par le président le 23 août 1945, n'est pas une organisation militaire officielle. Enfin, Par l'avis du gouvernement du 5 octobre, Badan Keamanan Rakyat, ou l'agent de sécurité du peuple, a été remplacé par Tentara Keamanan Rakyat, ou l'armée de sécurité du peuple. Le 7 janvier 1946, Tentara Keamanan Rakyat, ou l'armée de sécurité du peuple, a changé son nom pour Tentara Keselamatan Rakyat, ou l'armée de tranquillité du peuple. Puis, le 26 janvier 1946, a changé de nouveau comme Tentara République Indonésia, ou l'armée de la République d'Indonésie. Parce qu'à cette époque, en Indonésie, il y avait d'autres rangs armés à côté de l'armée de la République d'Indonésie. Alors, le 15 mai 1947, le président Sukarno a décidé d'unir l'armée de la République d'Indonésie avec ses rangs armés dans l'armée nationale indonésienne. Cette fusion a eu lieu et a été inaugurée le 3 juin 1947. Le 3 juin 1980, l'épidémie de tornade au Nebraska, États-Unis. Le 3 juin 1980 est connu comme la date de The Night of the Twister, ou la nuit des tornades. À cette date, il y a eu une série de tornades qui ont ravagé la ville de Grand Isle du Nebraska. Les 7 tornades ont tué 5 personnes et blessé 200 personnes. L'éclosion total de tornades a produit 18 tornades en 2 jours et causé de graves dommages jusqu'à l'est de la Pennsylvanie. Pendant 3 heures, dans la nuit du 3 juin 1980, une tornade se déplace lentement à travers la Grand Isle du Nebraska, a donné naissance à plusieurs tornades. C'est l'une des épidémies de tornades les plus inhabituelles de l'histoire des États-Unis. Le 3 juin 2017, l'attaque terroriste à Londres. Le 3 juin 2017, 3 personnes ont commis une attaque terroriste dans 2 endroits du centre de Londres, à savoir London Bridge et Borough Market. Des témoins ont rapporté que les assaillants ont crié « C'est pour Dieu » et ont poignardé de ses clients. 7 personnes ont été tuées et 48 ont été blessées à cause de cette attaque. 3 suspects ont été abattus par la police. Le département de la police métropolitaine a déclaré que l'attaque sur le London Bridge et le Borough Market était comme un incident terroriste. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie depuis Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Tous les auditeurs, le titre de mon Indonésie d'aujourd'hui est Jeux asiatiques 2018 avance produits domestiques. Le grand événement des Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta, Palembang, qui se tiendra en août devrait apporter de grands avantages à la nation indonésienne. L'un des avantages que les Indonésiens ressentent est l'impact économique de divers secteurs. Le chef du comité d'organisation des Jeux asiatiques de 2018, Erick Thohir, a expliqué que les Jeux asiatiques de 2018 fourniront un héritage et apporteront un grand impact positif pour l'Indonésie en termes d'économie. Selon des calculs préliminaires de l'Agence nationale de planification du développement, ou BAPENAS, l'impact économique des dépenses des visiteurs restants en Indonésie pendant les Jeux asiatiques de 2018 s'élève à 3,6 billions de roupies, avec 88% des dépenses des secteurs et des touristes, 4,67% des dépenses des athlètes, 3,96% des dépenses d'équipes médias, 2,34% des dépenses officielles et 0,77% des dépenses des bénévoles. On estime que l'hébergement devient la plus grande composante des dépenses qui atteint 1,3 milliard de roupies. Cela a été déclaré par le président du comité d'organisation des Jeux asiatiques 2018, Inasgok, Erick Thohir, lors d'une conférence de presse à Jakarta, mercredi, le 30 mai 2018. Il espère que les dépenses des visiteurs comprennent également l'achat de marchandises officielles des Jeux asiatiques 2018. Mohtar Salman, directeur de marchandises du comité d'organisation des Jeux asiatiques de 2018, a déclaré que le comité donnait la priorité aux micro, petites et moyennes entreprises nationales pour devenir titulaires de licences des marchandises officielles. C'est un effort pour promouvoir les produits nationaux dans le monde. Le comité d'organisation des Jeux asiatiques de 2018 a sélectionné 17 entreprises et micro-petites et moyennes entreprises nationales en tant que titulaires de licences pour produire et vendre les marchandises officielles des Jeux asiatiques de 2018. Certains des composants mesurés sont la qualité, l'originalité du produit et la solidité du réseau de distribution. En outre, le titulaire de licence doit avoir la capacité des partenaires, l'autonomisation des partenaires de micro, petites et moyennes entreprises et la bonne crédibilité de l'entreprise. La conception de la marchandise de tous les produits est l'œuvre des enfants indonésiens. Erick a expliqué qu'il n'y a pas de fonds de revenus budgétaires de l'État qui est utilisé pour la production de marchandises parce qu'elle est faite par des partenaires dans un système de partage des revenus. Maintenant, la marchandise officielle des Jeux asiatiques de 2018 a été vendue sur le site officiel des Jeux asiatiques de 2018 en plus de 2000 centres commerciaux francisés, sur portail d'achat en ligne et dans les stands officiels dans plusieurs centres commerciaux. L'Inasgok a invité le peuple indonésien à acheter toujours des marchandises officielles, parce que les résultats des ventes seront directement remis à l'État. Voilà mon Indonésie.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Chers amis, l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui va vous présenter l'un des lieux touristiques de Medan, Sumatra du Nord. Restez toujours avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, que vous pouvez écouter par www.voinews.id. Voyager autour du village de Madras ou du village de Keling, Medan, est une activité touristique bon marché à Sumatra du Nord. Cet endroit est connu comme le petit village indien de Medan. Et comme le village indien d'ailleurs, ce village est devenu une destination touristique culturelle intéressante à Medan. L'existence du village de Keling renforce également la réputation de Medan en tant que ville multi-ethnique en Indonésie. Surtout maintenant, le village de Keling n'est pas seulement la résidence des Indiens, mais aussi des gens de Medan d'autres tribus. Néanmoins, le terme « le petit village indien de Medan » est toujours le surnom de ce village. Le village de Keling, Medan, a vu le jour au 19e siècle et à cette époque, de nombreux Indiens tamouls qui venaient du pays d'origine pour travailler comme planteurs de tabac de Delhi. Les propriétaires de plantations préféraient utiliser la main-d'œuvre importée de l'Inde parce qu'ils sont très diligents. De plus en plus, beaucoup d'Indiens tamouls travaillaient à Medan, non seulement comme des planteurs. Les Indiens ont également obtenu des emplois du secteur de la construction et aussi comme des commerçants. Chers amis, la superficie de ce village atteint 10 hectares. Dans le passé, ce village s'appelait Patissa. Certaines personnes l'appelaient le village de Madras. Mais à partir du nombre de titres, le nom du village de Keling est devenu la désignation la plus populaire dans la communauté de Medan. Ce village est situé dans la zone de Zainul Arifin. Avant, on utilisait aussi les mots indiens pour nommer les rues de ce village, comme la rue Calcutta, la rue Bombay, la rue Kailan, la rue Madras, etc. Mais maintenant, beaucoup de noms ont changé. Pour y arriver, les touristes sont assurés de ne pas avoir de difficultés, car ils peuvent utiliser les moyens de transport des motos pousses. Ce village est connu comme le centre de la culture indienne dans la ville de Medan. Ce village est une zone administrative du district de Madras. Là, les touristes pourront voir beaucoup de vieux bâtiments dont l'architecture est typique de l'Inde. Les bâtiments les plus célèbres de cet endroit sont les sanctuaires de Sri Mariamman et Subramaniam. En outre, il y a aussi la mosquée de Gaudiya, qui a une conception architecturale indienne épaisse, parce que le peuple tamoul qui y habitait est non seulement hindou, mais aussi musulman. Chers auditeurs, en plus d'être un lieu de tourisme culturel, le village de Kling Medan est également un lieu où on chasse de culinaires typiques de l'Inde, comme le culinaire le plus célèbre est Martabak India. Vous pouvez également acheter des vêtements typiques de l'Inde là-bas. Pour les touristes qui veulent y rester, vous pouvez passer la nuit dans un hôtel existant dont les prix varient. Chers amis, voilà l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui qui présente le village de Kling à Medan, Sumatra du Nord. Si vous êtes à Medan, prenez le temps de profiter de l'atmosphère du village de Kling. Nous allons nous rencontrer demain avec des autres sujets intéressants. À demain!
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Salut tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve dans la rubrique de l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, on va parler du mois de Sukarno à Ende, Nusa Tenggara de l'Est. Chers auditeurs, la ville d'Ende, sur l'île de Flores, à Nusa Tenggara de l'Est, est une ville où le premier président indonésien, Sukarno, a été exilé par le gouvernement colonial néerlandais pendant 4 ans. Sukarno est arrivé à Ende en février 1934 en navire de Jan van Riebeek et quitté la ville en février 1938 en navire de Clerk de KPM pour arriver à Surabaya. Flores est une petite île de la périphérie de Sunda Kecil qui n'a attiré l'attention du gouvernement néerlandais au début de la deuxième décennie du XXe siècle. Donc, Ende est utilisé comme un endroit pour isoler Sukarno, pour l'éloigner de ses activités politiques et de ses camarades à Java. Des raisons historiques, selon le chef de l'Office de tourisme de Nusa Tenggara de l'Est, Marius Ardu Jelamu, le 1er juin, c'est le jour de Pancasila, le 6 juin, c'est l'anniversaire de Sukarno, et le 21 juin, c'est la mort de Sukarno. Un certain nombre d'activités collectives entre les agences auront lieu pendant le mois de Sukarno à Ende, comme la plantation d'arbres, le concours de quiz, la socialisation des salaires et des stupéfiants, puis le concours de suivi et la formation des militants anti-drogue. La série d'activités du mois de Sukarno à Ende met davantage en évidence la sensation du tourisme national, surtout sur l'histoire de la vie de Sukarno pendant son exil à Ende. Le chef du bureau de tourisme de Nusa Tenggara de l'Est, Marius Ardu Jelamu, a expliqué que le mois de Sukarno, qui se déroulera du 1er au 21 juin 2018, a voulu refléter le voyage de Bung Karno en tant que proclamateur et paletteur de points Pancasila. Pour cela, le voyage du premier président indonésien lors de son exil à Ende en 1934 à 1938 est présenté sous la forme d'un diorama. De Sukarno est également animé par diverses activités touristiques qui ont été commencées depuis le 24 mai, comme les performances culturelles d'archipel interethnique et le concours interethnique de choir. Il y a aussi le concours de photographie, une expo culturelle, le concours de voilière, le concours de suivi sur la montagne de Meja et la balade à vélo autour de la ville d'Ende et des destinations touristiques environnantes. Marius a ajouté que le festival du mois de Sukarno se tiendra régulièrement chaque année à Ende, surtout en juin depuis que cette activité a été déclarée en 2016. Chers amis, voilà l'Indonésie en couleur dont le sujet est le mois de Sukarno à Ende, Nusa Tenggara de l'Est. On se rencontrera demain avec des autres sujets intéressants. Au revoir!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des chansons indonésiennes nuancées islamiques. Pour commencer notre édition, écoutons la chanson intitulée « Dengan menyebut nama Allah » ou en français « En appelant le nom de Allah ». Restez avec nous à www.voinews.id.
Thank you.
Voilà, chanson s'intitule « Dengan menyebut nama Allah » chantée par Marchanda. Cette chanson a d'abord été popularisée par Novia Kolopaking dans un album de compilation religieuse intitulé « Dengan menyebut nama Allah » sorti en 1992 créé par Aryadipayana et Dwiki Darmawan. Cette chanson nous dit que tout ce que les musulmans vont faire devrait commencer par le nom de Dieu et nous devons nous soumettre à lui pour que la vie soit en paix. Chers amis, la chanson suivante que je vous présente est la chanson de Doreen s'intitule « Ingat Allah » ou en français « Souviens Allah ».
Allah, saat engkau bahagia, jangan hanya ingat Dia. Saat duka melanda, ingatlah Allah. Saat dunia memakanku, jika bimbang menggoyahku, bertanyalah pada banyak salah, banyak lupa, tapi pintunya terbuka jika hati ingin kembali kepadanya. Ingatlah Allah saat engkau tertawa, karena Dia selalu ada saat engkau terluka.
Chers amis, vous venez d'écouter la chanson de Drain dont le titre est « Ingat Allah ». Cette chanson religieuse a été créée par Indra, le chanteur, depuis 2007. Cependant, elle a été sortie en 2010. Dans cette chanson, le groupe se compose d'Indra comme chanteur, Dipul, bassiste et Aan comme batteur ou percussion. Il joue de la musique country avec une nuance acoustique dominante. De plus, cette chanson semble joyeuse, alors elle est devenue la chanson intéressante parmi les chansons religieuses en cette époque. Chers amis, la suite, je vous présente la chanson religieuse s'intitule « Doa » ou en français « Prière ». Bonne écoute! Thank you.
Tuhanku. Dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci tinggalkan lilin di gelap. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tak bisa berpaling. Tuhanku, aku mengembara di negeri bisa
chanson intitulée Doa ou en français Prière, chantée par Reni Jayusman. Cette chanson est inclue dans l'album intitulé Sujud ou en français Prostration, qui est lancé en 2016. Les paroles de cette chanson sont tirées des rimes d'un poète indonésien, Khairil Anwar. Alors, pour terminer l'édition d'aujourd'hui, je vous donne l'autre chanson pop religieuse dont le titre est Maha Melihat. C'est une chanson de collaboration entre Opik et Amanda. Bonne écoute et au revoir!
Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku.
Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya.
Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha mengerti, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Jalan meski penuh dengan tangisan.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.